Le micro des peps.
L'émission est joyeuse et soulage.
Entre ses doigts, on prend le cliché. Et puis, à l'instar de Gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement, sans secousse, avec minutie. On commence le développement de la photographie. Le cliché baignant dans son bain, il faut alors, sans maladresse, agiter jusqu'à ce que le dessin de l'image tout à coup se dresse. C'est là la grande précaution, il faut remuer l'effigie pendant toute l'opération pour faire une bonne photographie. Le cliché monte, il se maintient à merveille sur la plaque sensible. Attention, voilà que ça vient même aussi bien que possible. Il ne s'agit pas, en vérité, après autant de minutie, d'avoir à la fin qu'un raté en guise de photographie. C'est fini, faut pas s'énerver. L'opération est complète. Il ne reste plus pour le laver qu'à mettre cliché dans une cuvette. Et si le plaisir est sans pareil qu'on a pris à toute cette chimie, on recharge son appareil pour faire une autre photographie.
Le micro des peps.
L'émission est joyeuse et soulage.
Bonjour, je m'appelle Cécile.
Bonjour, je m'appelle Anthony.
Bonjour, je m'appelle Paul-Vie.
Bonjour, je m'appelle Laurence.
Le micro des peps, saison 2, épisode 4.
Veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité du son pour le reportage.
Une histoire sans cliché.
Instant photo en compagnie de Rémi Duroir, photographe d'art et créateur du musée de la photographie à Grasset.
Bonjour, qui êtes-vous?
Donc je suis photographe, je m'intéresse à l'histoire de la photographie et à pas mal d'autres choses également. En général, tout ce qui est technique m'intéresse. Puisque j'ai créé le musée de la photographie en 1999, après mûre réflexion depuis 1977. Vous voyez, 22 ans plus tard, après la décision de le créer, il a enfin été créé.
Quel est votre métier?
Alors, mon métier, alors, c'est photographe. Photographe, je vais dire, si ça peut résumer un petit peu photographe d'art, c'est-à-dire que je suis un petit peu libre de faire ce que je veux, mais j'ai également une clientèle parce que, il faut quand même aussi faire rentrer un petit peu d'argent parfois.
Depuis quand faites-vous de la photo?
Alors, je fais de la photo depuis l'âge de 15 ans environ. Ça fait une fin d'année, on va dire, parce que j'ai commencé ce qu'on appelle un petit acte, c'est-à-dire que j'ai tout inventé, tout ce que j'avais besoin en photographie, je l'ai inventé, y compris le développement dans le laboratoire, si bien que lorsqu'on est au petit acte, on perd énormément de temps parce qu'on passe son temps à réinventer ce que les autres ont inventé avant.
C'est quoi la photo?
C'est quoi la photo? Et bien, la photo, c'est un mélange énorme entre d'abord le savoir-faire, savoir prendre l'image et savoir la faire passer aux autres personnes. Donc il y a un travail qui consiste à créer des émotions avec la reproduction d'une photographie, d'une image, on va dire. Et puis d'un autre côté, il y a toute une technique qui est à la fois physique, par l'optique, par tous les phénomènes de l'optique, et également chimique, par tous les problèmes du développement. Bien entendu, quand je parle comme ça, je parle de la photo dite argentique, parce que la photo numérique à l'heure actuelle a résolu un certain nombre de problèmes, puisque celui qui opère, celui qui fait la photo, n'est pratiquement plus obligé de développer lui-même sa photo. Donc, dans tous les cas, les gens qui font des photos sur téléphone tous les jours, elle ne se pose aucun problème d'utiliser des chiffres. Bon, bien entendu, le photographe. photographe, lui, continue à s'en poser parce qu'une photo qui sort d'un appareil numérique n'est pas finie, n'est pas terminée, n'est pas présentable en tant que tel lorsqu'on est photographe. Il faut donc travailler souvent sur ordinateur pour améliorer ces photos.
Depuis quand ça existe, la photographie?
Alors, la photographie existe officiellement depuis 1826, c'est-à-dire que cette année, en principe, nous pouvons fêter le bicentenaire de la photographie, c'est-à-dire 200 ans de la photographie. Mais en réalité, il faudrait remonter très très loin pour s'apercevoir que dans l'antiquité chinoise déjà, on connaissait certains principes. En particulier celui de la chambre noire, c'est-à-dire le principe physique de l'inversion du rayon lumineux qui passe dans un trou attelé, par exemple, dans une pièce noire. Ça, vous voyez, c'est très très ancien, et même notre antiquité à nous, notre antiquité, on va dire, européenne, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote avait déjà mis en note que la lumière qui passait, la lumière du jour qui pénétrait par un petit trou aménagé dans le mur d'une pièce obscure, projetait sur le mur en face l'image inversée de tous les objets placés à l'extérieur devant cet orifice. Vous voyez donc que ça remonte à très très loin. C'est un problème qui a préoccupé l'homme depuis plusieurs siècles, voire même des dizaines et des centaines d'années.
Thank you. Photo souvenir.
Qu'est-ce que vous aimez dans la photographie?
Alors, dans la photographie, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout de représenter une réalité. J'aime bien que lorsque je vais chez mon artiste, par exemple, qu'il me fasse une photo parfaitement réaliste de la dent qu'il doit souhaiter. Mais en dehors de ça, je pense que la photographie est surtout un moyen de s'exprimer, donc un moyen de communiquer avec les autres personnes. Donc, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie artistique de la photographie.
C'est quoi le musée de la photographie à Grasset?
Alors, dans ce musée, il y a toute une partie qui est consacrée à Lucien Prévost. Lucien Prévost, c'est un personnage local qui est né à Saint-Tropez, dont les parents habitaient Grasset, et qui a participé à l'invention, on va dire, du cinématographe. Puisque, à partir de 1900, le cinématographe ayant été inventé par les frères Lumière en 1895, à partir de 1900, Lucien Prévost a fabriqué des cinématographes de grande qualité, de renommée mondiale, puisque même une de ses caméras de cinéma figure dans un film très célèbre qui s'appelle Le Caméraman de Buster Keaton, produit par la Metro Goldwyn-Mayer aux États-Unis. Et c'était un personnage extrêmement important. Donc, toute une partie est consacrée à sa vie et à ses inventions, à sa vie, on va dire, civil, mais également militaire, puisque c'est un personnage qui a participé à la guerre de Boer en Afrique du Sud. En dehors de ce personnage, Lucien Prévost, qui occupe une grande partie de ce musée, il y a également toute une partie qui est consacrée aux réalisations audiovisuelles à la Belle Époque, c'est-à-dire entre 1870 et 1914. Et donc, justement, on a appelé ça la Belle Époque de Lucien Prévost. Et c'est là qu'on va retrouver eh bien, des gramophones, des phonographes, des premières TSF, également des machines électriques. Et puis enfin, au premier étage, on a le musée de la photo, proprement dit, avec une collection d'environ 4000 à 5000 appareils photographiques ou accessoires, remontant le temps depuis les premières chambres photographiques. On va dire, qui ont été contemporaines de l'invention de la photographie par Niels, par exemple, jusqu'aux appareils numériques.
Thank you.
ma photo.
Quel photographe célèbre vous pouvez nous citer? Quel photographe célèbre vous aimez?
D'accord. Alors, des photographes célèbres. Il y a d'abord des photographes qu'on va appeler les inventeurs, hein, ceux qui ont été tout à fait à la base de la photographie. Je pense que ces gens-là, dont on reparlera un petit peu plus tard, ces gens-là, eux, ils se sont contentés, enfin tout au moins ils ont fait l'effort de mettre au point des procédés pour arriver à rendre des images. Et ensuite, il y a eu des photographes qui, eux, ont utilisé ces procédés de façon beaucoup plus artistique pour pouvoir laisser une trace de leur art. Ce n'était ni des peintres ni des sculpteurs, ils devenaient des photographes, un métier nouveau que l'on ne connaissait pas. Et là, dans ce cas-là, évidemment, les gens que j'aime beaucoup, eh bien, ça a été d'abord, on va dire, Hippolyte Bayard. Hippolyte Bayard était un Français qui, vers les années 1837, donc tout à fait au début de l'invention de la photographie, a commencé à faire des images sur papier, des images positives sur papier, et qui était vraiment du niveau artistique, c'est-à-dire que pour la première fois, on photographiait des gens ou des paysages de façon à ce qu'ils soient beaux à présenter. Ensuite, il y a bien sûr le célèbre Nadar. Alors, Nadar s'appelait en réalité Gaspard Félix Tournachon, et Gaspard Félix Tournachon était un journaliste caricaturiste. Il faisait énormément de choses comme ça, et lorsqu'il a commencé à faire de la photographie, eh bien lui, son but, ça a été de faire de la photographie de caractère. Il a photographié tous les grands personnages de son époque, tous ses contemporains. On peut citer Victor Hugo, Georges Sand, peut-être Sarah Bernhardt également, et bien d'autres. Et donc, il a, par ses photographies, donné le caractère. C'est comme ça que on a maintenant de très bons portraits, en particulier de Victor Hugo, je vous disais tout à l'heure, de Georges Sand, qui nous concernent directement dans la région, et qui sont des portraits tout à fait caractéristiques. On reconnaît parfaitement le caractère des gens dans ce genre de photographie. C'est également quelqu'un qui a fait de la photographie en ballon, puisqu'il était également aérostier, c'est-à-dire qu'il se déplaçait avec des ballons gonflables. Et en particulier, en 1870, pendant le siège de Paris, eh bien, il a donné il a laissé ses ballons aux républicains pour pouvoir transporter leur message. Donc voilà, donc un personnage qui me plaît beaucoup, par-dessus tous les autres, c'est Nadar. Pourquoi on l'appelle Nadar alors qu'il s'appelait Gaspard Félix Tournachon? Eh bien, on dit que ça serait, dans les milieux intellectuels de l'époque, Balzacien en particulier, quelqu'un qui aurait dit Tournadar, Tournachon, c'est moi, non, tu t'appelleras Tournadar. Et puis, ma foi, il a dit ben, très bien, je m'appellerai Nadar. Voilà.
C'est quoi la première photo prise et connue?
Alors, la première photo reconnue, bien justement, c'est celle dont on parle cette année, c'est-à-dire celle dont on fête aujourd'hui, pendant toute l'année 2026, la photographie de Joseph Niépce, dit Nicéphore Niépce, parce que c'était un soldat de la Révolution qui était bien reconnu pour son courage et tout ça par tous les gens. Et donc, on l'appelait Nicéphore parce que c'était un nom grec qui voulait dire le porteur de victoire. Alors, Joseph Nicéphore Niépce, donc, réalise des travaux photographiques, on va dire, entre 1816 et 1826 environ, c'est-à-dire une dizaine d'années. Il obtient les premières images en 1822, mais ces images sont négatives et elles sont fugaces, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas dans le temps. Alors qu'en 1826, il obtient enfin une première image, celle qu'on va considérer comme la première photographie. C'est une vue de prise de chez lui. Il habitait le domaine du Gras à Saint-Loup-sur-Varenne et il a pris une photo avec sa chambre depuis sa fenêtre. Cette première image positive de Niépce, elle est faite sur plaque d'étain. C'est ce qu'on appelle l'héliographie, c'est-à-dire la gravure par le soleil. Elle était enduite de bitume de Judée, c'est un goudron, et elle a été développée dans le pétrole et l'essence de l'avant. Vous voyez que c'est très compliqué au départ, pour être fixée ensuite définitivement dans du sel de cuisine. C'est donc une plaque de métal, hein, unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la reproduire. Cette plaque de métal, elle a été faite en 1826 et elle a pu noter « J'ai enfin obtenu une image avec la chambre noire qui reste et qui sera définitive. » Cette plaque a été perdue pendant très longtemps, on ne sait pas très bien pourquoi. On l'a retrouvée dans un grenier de Londres et elle est à l'heure actuelle conservée à l'université d'Austin au Texas. Voilà, ça aurait pu être en France, ça serait beaucoup mieux vu que c'est une invention française, mais on n'y peut rien, la première photo n'est pas en France. Elle s'appelle donc « Point de vue du gras » et elle a été prise en 1826 et c'est la première image positive de Niépce, de Nicéphore Niépce.
c'est sensible à la lumière et inaccessible devant ton sommeil.
Y'a pas photo.
Quelle est votre photo préférée?
Ma photo préférée. Alors, on va faire abstraction de toutes les photos modernes. Je vais dire, hein, pour la bonne raison, c'est que j'ai énormément de photographes et de photos que j'aime dans la vie, et même des copains que je côtoie tous les jours et qui me surprennent toujours par la qualité de leurs images. On va oublier donc ces photographies-là pour rester beaucoup plus près de l'invention de la photographie et des personnages de historiques, on va dire, de la photographie. Alors j'ai une photographie au musée qui est une photographie de Victor Hugo par Madar en 1884, donc un an avant la mort de l'écrivain Victor Hugo. Eh bien cette photo-là, c'est ma photo préférée parce que tout simplement je l'ai récupérée lorsque j'avais une quinzaine d'années, 14 ou 15 ans, et que je l'avais trouvée dans une vente. Parmi les débris, dans un tas de crasse, j'avais trouvé cette photo. Et j'étais tellement fier d'avoir trouvé cette photo qu'ensuite je l'ai gardée avec moi pendant très longtemps. Et puis c'est seulement lorsque j'ai été adulte et que j'ai pu la faire authentifier, si vous voulez, que je me suis aperçu que j'avais là un véritable trésor photographique, puisque c'est une photo de Nadar, de l'atelier Nadar, 1884, et Victor Hugo. Donc évidemment, cette photo m'a suivi partout. Au point même que mon fils, lorsqu'il était petit, me disait « c'est ton grand-père que tu as en photo ici ». Non, c'était pas mon grand-père, c'était Victor Hugo, mais c'était un personnage que je traînais partout et surtout une image que j'ai voulu garder toute ma vie. Alors, cette photo, elle est connue, elle est extrêmement connue, mais à partir du moment où on parle de photographie, il faut donner une précision sur l'original. Parce que lorsqu'on parle d'un tableau, un original, c'est un seul tableau. Mais en photographie, ce n'est pas une seule photographie, c'est une parmi les tirages qui a été fait de ce personnage. Donc, si vous voulez, cette photo de Victor Hugo, elle porte un numéro 1, elle est répertoriée, il n'y a pas de problème, à la Bibliothèque nationale, elle existe. Et cet exemplaire, si vous voulez, est visible chez moi, visible au musée de la photographie.
On a besoin de quoi pour faire les photos?
Alors, pour faire des photos, bien sûr, la base de tout, c'est d'avoir un appareil. Cet appareil, on l'a appelé pendant très longtemps chambre. Chambre, pourquoi? Parce que l'on reprenait le même mot que le principe qu'on avait vu auparavant chez les Chinois ou chez les anciens comme Aristote, c'est-à-dire une chambre, une pièce, si vous voulez, avec un trou dedans. Et une pièce avec un trou dedans, c'est pas facile à transporter. Donc on a réduit considérablement la chambre pour en faire un appareil presque portable au départ, c'est-à-dire soit un gros cube de bois dans le cas des daguerreotypes par exemple, ou soit un appareil genre accordéon, c'est-à-dire avec un soufflet central qui permettait une mise au point beaucoup plus. Cette chambre, on l'a promenée ainsi pendant plusieurs dizaines d'années, jusqu'aux années 1885-86, où un industriel américain, George Eastman, qui a fondé la société Kodak, arrive à réduire considérablement l'appareil en n'introduisant dedans non plus des plaques de métal ou de verre, mais des feuilles de matière plastique, si vous voulez, de cellulose ou autres matériaux comme ceci qu'on appelle des films souples. Et à partir du moment où les appareils photo ont été équipés de films souples, eh bien, ils sont devenus beaucoup plus petits, beaucoup plus légers et transportables. Avec les progrès qu'on a fait dans l'électricité en particulier, mais avant dans l'horlogerie, eh bien, on a fait des systèmes d'obturateurs qui devenaient de plus en plus performants et de plus en plus petits, et qui ont permis à chacun d'avoir des appareils photo performants, c'est-à-dire capables de prendre tous les sujets à n'importe quelle vitesse, et tout ça sans avoir de connaissances réellement photographiques. Maintenant, si on veut faire de la photographie à l'ancienne, avec un appareil photo et des films souples, eh bien, il faudra apprendre aussi à les développer, à les transformer de façon à ce que vous puissiez présenter au public, aux personnes qui vous suivent, des images sur papier de qualité. Dans ce cas-là, il faut bien sûr apprendre à développer et à tirer les photographies. En numérique, à l'heure actuelle, on a un petit peu moins de problèmes parce que je dirais que c'est l'industrie qui a résolu nos problèmes. On nous confie maintenant un appareil photo, ne serait-ce qu'un téléphone, qui est très performant, qui permet de faire des images pratiquement sans réfléchir, sans faire de réglage, mais par contre, on a ce qu'on mérite. C'est-à-dire que la photo, la plupart du temps, qui sort d'un téléphone, est trop petite pour qu'on l'agrandisse énormément. On ne peut pas en faire des affiches, on ne peut pas en faire des grands posters, mais par contre, on peut faire des photos tout à fait valables à voir sur l'écran.
Quel appareil vous utilisez pour faire des photos?
Alors, pour faire des photos, j'ai d'abord utilisé, comme je vous le disais, de nombreux appareils argentiques. Ces appareils argentiques, donc, qui utilisent des pellicules souples, ces appareils-là, je préférais souvent les acheter en grand format. Ce qu'on appelle grand format, c'est un format de négatif qui est relativement important pour permettre la reproduction et le grand tirage, si vous voulez. Ainsi, j'aimais beaucoup utiliser des appareils qu'on appelle des 6-6, qui sont des moyens formats, des appareils qui font 6 cm, enfin le négatif fait 6 cm par 6 cm, et ces appareils permettent de faire des photos qui sont tout à fait acceptables en agrandissement. J'aime beaucoup travailler en noir et blanc, donc je travaillais très facilement avec ce genre d'appareil-là, d'appareil 6-6, qui soit des Rollet, des Yashica ou des Français SM, par exemple. Et bien sûr, ce n'est pas les seuls appareils que j'utilise. J'utilisais également ce qu'on appelle le 24-36. Le 24-36 est un appareil qui utilise le film de cinéma 35 mm et qui donne une image petite, bien sûr, mais de grande qualité. Alors là, on a des appareils qui sont très performants, soit des appareils qu'on appelle un télémètre, c'est-à-dire avec un système optique de mise au point un peu complexe, mais extrêmement fiable, ou des réflexes, étant, je dirais, les rois des appareils photo jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ce sont des appareils qui ont une visée qui passe par l'objectif, donc qui donne exactement, enfin presque, exactement l'image que l'on voit dans l'objectif.
D'avant, celle d'après, tu sais, celle qui s'efface, celle que l'on a déchirée, la photo de toi qui m'enlace. La photo de la forme des nuages, celle de la forme de l'eau, juste, tout juste avant le naufrage. La photo de toi, mes deux dos. La photo qui dit rien, qui pose.
Celle où l'on parle trop.
La photo qui dit tout, qui ose. Celle où on trouve pas ses mots. La photo. La photo. La photo. La photo.
La photo d'un voyage. Celle tout au flou. Celle où tu fais ton âge. La toute première photo de nous.
La photo que l'on n'a pas prise. Celle que l'on a perdue. Celle que l'on n'a pas comprise. La photo de toi toute nuit. La photo de la forme des nuages. Celle de la forme de l'eau. Juste, tout juste avant le naufrage. La photo de toi. Ni dedans. La photo qui dit rien, qui pose. Celle où on parle trop. La photo qui dit tout, qui ose. Celle où on trouve pas ses mots. La photo. La photo. La photo. La photo.
Une image vaut mille mots. Photo finish.
Quel est le meilleur appareil selon vous pour faire des photos?
Alors, je dirais que tous les appareils à l'heure actuelle sont de qualité. Ça, c'est très vrai. Mais par contre, il y a des catégories d'appareils photo. Ça dépend ce que l'on veut faire. Si on veut faire des images pour pouvoir confier à sa famille ou les regarder de temps en temps, des appareils relativement simples ou des téléphones peuvent parfaitement faire l'effet. Mais il est évident que dès qu'on veut aborder un autre sujet photographique qui soit un peu plus complexe, par exemple la photographie animalière ou le reportage, il faut trouver des appareils qui soient adaptés. Alors pour ça, par exemple, pour la photographie animalière, évidemment, le meilleur appareil, c'est le réflexe. C'est un réflexe, qu'il soit de n'importe quelle marque, hein, par contre, parce que la marque importe peu, que ce qu'on soit chez Canon, Nikon ou Sony ou Asahi Patex, on est vraiment dans un niveau top de qualité, donc il y a aucun problème. Hein. On choisit ensuite un petit peu selon ce qui nous plaît, l'ergonomie, le poids, l'allure générale. Et donc, les réflexes équipés de gros téléobjectifs sont les appareils qui sont vraiment parfaits pour la photographie animale. Par contre, ce sont des appareils extrêmement encombrants si on veut faire tout ce qu'on appelle la photo sociale, c'est-à-dire prendre photo de personnes dans la rue. Il faut des appareils beaucoup plus discrets que ça. Donc, dans ce cas-là, on va plutôt se tourner vers des appareils classiques pour ce genre de reportage. Par exemple, comme les Leica à télémètre, qui sont des appareils légers, extrêmement maniables, et qui permettent de faire d'excellentes images sur le vif.
Si on fait du studio, si par exemple on décide de faire des portraits, eh bien je pense que là, on peut se tourner facilement vers des appareils moyens en format. Dans ce cas-là, bon, moi j'ai un petit faible pour l'Hasselblad, qui est un appareil suédois, mais c'est un appareil extrêmement cher, et donc qui est limité à ceux vraiment qui vont gagner leur vie à faire du portrait ou à faire de la mise en scène de studio. Maintenant, il y a beaucoup d'appareils dans tous ces domaines-là, donc il y a un choix formidable. Et ce qu'il y a, c'est que justement, je ne m'arrête pas ni à une marque, ni à un type d'appareil. À chaque fois que j'ai l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau, eh bien, je l'essaye. Et si c'est un appareil qui s'applique parfaitement à ce que je fais comme travail, eh bien, je l'adopte.
Quel conseil vous pouvez donner à des apprentis photographes?
Alors, mon slogan pour les apprentis, il est très simple. C'est « Il faut que votre appareil fasse partie de vous ». Il est hors de question de prendre un appareil photo et d'emmener avec lui son dictionnaire, sa méthode pour s'en servir, hein, son mode d'emploi. Parce que ça ne correspond pas du tout à l'esprit de la photographie. La photographie, comme je vous le dis, c'est un art. Il faut arriver à séduire les gens que vous avez devant vous et qui vont regarder vos images. Ces images doivent être intéressantes et doivent être émouvantes. Et pour cela, il faut que vous ayez aussi de l'émotion au moment où vous prenez votre photo. Donc, le conseil que je donne dès le départ, c'est bien apprendre à se servir de son appareil photo en écoutant quelques conseils très importants de personnes qui savent déjà faire de la photo, en particulier ce qui concerne la profondeur de champ, l'ombre et la lumière, etc. Il y a énormément de choses, il faut les apprendre. Et lorsqu'on les a apprises et lorsqu'on a travaillé toujours avec un appareil photo et regardé ce que cela donnait, ensuite on ne doit plus hésiter. On doit emporter son appareil photo avec soi et au moment de déclencher, se dire que l'appareil photo fait partie de vous-même. C'est le prolongement de votre doigt. En fait, c'est votre œil par la photographie. Et quand je dis l'œil, je dirais même encore un peu mieux, c'est votre cœur par la photographie. C'est-à-dire que c'est au moment où vous voulez mettre de l'émotion qu'il faudra appuyer comme il faut sur le bouton.
Comment on fait pour visiter le musée?
Alors, pour visiter le musée, à l'heure actuelle, sachant que officiellement son statut fait qu'il est coupé du public, si vous voulez, il n'est pas coupé bien sûr, mais disons qu'il n'est plus officiellement ouvert au public sans arrêt. Donc maintenant, il faut donc prendre contact avec moi. Pour cela, on peut toujours appeler le musée sur son site avec le numéro du musée et il y a un renvoi sur mon propre téléphone. Donc, je ne prends à l'heure actuelle que, bien sûr, que des groupes ou que des gens qui ont quelque chose à réaliser, une thèse. Ce musée situé à Grasset, il est deux places du marché, il est très petit, il s'appelle le musée Lucien Prévost. Le numéro de téléphone du musée, c'est le 02 48 51 41 80. Le site, c'est museephoto.com. Et le site,
l'adresse où l'adresse, c'est museephoto.com. Ce que c'est beau, la photographie. Les souvenirs sur papier glacé, pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Ce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier, pas de raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en tricot d'été, en noir et blanc, au 50e. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. parce que c'est beau, la photographie. Bougeons plus, l'amour va passer. Y'a pas de raison pour qu'on oublie sa petite gueule sur l'instantané.
Bah bougeons plus.
En couleur, ce que c'est beau, la photographie. Bougeons plus, l'amour va passer. 1, 2, 3, c'est la plus jolie. Agrandi, vous l'encadrerez.
Ne bougeons plus.
Attention, 1, 2, 3, j'appuie. On sourit pour l'éternité.
Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt pour une nouvelle émission. Et au revoir.
Au revoir.